Dans le NRV la suite ce soir, féminisme, post-MeToo et sororité. On va entrer dans le débat, mais auparavant, petit essai micro pour tout le monde. Lisa Azuelos, vous êtes cinéaste, Mon bébé, le film est toujours en salle, et vous êtes aussi la fondatrice et présidente de l'association Ensemble contre la gynophobie. J'ajoute quelque chose ?
Non, ça va.
C'est parfait. Chloé Delhomme, vous êtes écrivaine, essayiste, et vous signez Mes bien chères sœurs aux éditions du Seuil.
Bah oui, ça va.
Très bien. Anne-Marie Le Porrier, vous êtes juriste spécialiste de droit constitutionnel et on peut vous lire dans Causeur. Est-ce que ça correspond à la réalité ?
Entre autres, oui.
Très bien. Et Florence Rochefort, vous êtes historienne, auteure de Histoire mondiale des féminismes aux presses universitaires de France. Je crois que c'est correct.
Tout à fait.
Les présentations sont faites. Générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite exclusivement féminin ce soir, à part vous et moi, Christophe Bourseiller.
Oui,
on attendait l'ouverture du procès Harvey Weinstein, c'était prévu pour le 6 mai, puis c'était le 3 juin, il est finalement reporté en septembre prochain. Ça ne va pas nous empêcher de parler de cette affaire ce soir qui a mobilisé un nouveau féminisme, alors je ne sais pas, du moins qui a libéré une parole mondiale avec le soutien des outils numériques, je pense hashtag MeToo ou balance ton porc. Mais où en est le féminisme aujourd'hui ? Une question qu'on s'est posée au moment où se réunissent aujourd'hui et demain à Bondy et à Paris les ministres des droits des femmes des pays membres du G7. Alors quelles sont les luttes aujourd'hui pour le voile par exemple qui semble crisper deux générations de féminisme, différentialisme, sororité, féminisme universaliste, black féminisme, on s'y perd, il y aurait même un post-féminisme. Toutes nos invitées sont arrivées, mais alors qui va garder les enfants ? Ah oui, non, c'est pas possible.
Facile,
ça, c'est pas possible. C'est impossible.
Hein.
Le NRV, c'est reparti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Donc une blague bien dégueulasse pour commencer.
Ah bah merci.
Christophe Bourseiller.
Ça s'appelle me lancer, ça. Alors c'était déjà très compliqué pour moi de faire cet éditorial, Laurent, car au fond, quand j'y réfléchis bien, je ne suis qu'un homme. Et de quel droit viens-je ici ? De quel droit m'exprimais-je ? De quel droit parlais-je ici ? Alors, Elia, c'est vrai, une révolution des femmes qui est en cours. Appelons-la cette révolution féministe, si l'on veut, mais le terme ne rassemble pas toutes les femmes. Depuis l'affaire Weinstein, MeToo, depuis Balance ton porc, le mouvement des femmes s'est-il radicalisé ? Chloé Delhomme, Barbara Pola, Nancy Fraser ou Réjeanne Sénac appellent à aller encore plus loin, toujours plus loin. Comme le dit un article de Cécile Domas dans Libé le 7 mars 2019, le féminisme c'est « je veux tout ». Et elle cite d'ailleurs Chloé Delhomme « les faits sont indéniables, l'époque est historique et ma jouissance est totale ». Alors, elle va où cette révolution des femmes ? À bien des égards, elle désigne un ennemi, le masculin. Alors le masculin, c'est-à-dire l'homme, pas l'interrogation, c'est-à-dire l'homme. Comment vont évoluer la séduction, les rapports dans le couple hétérosexuel, la sexualité ? Déjà les mots changent et se féminisent. Il est même des militantes de l'écriture inclusive qui proposent de modifier l'hymne national. Allons enfants de la matrie. Allons enfants de... Bon, Chloé Delhomme, comment expliquez-vous que l'affaire Weinstein ait pu jouer à ce point un rôle de déclencheur ?
Alors, c'est étrange parce que je crois qu'aux États-Unis, d'habitude, on a... Ouais, je sais pas, vous me prenez... Je ne sais pas. Je crois qu'il y avait un phénomène de ras-le-bol en France aussi depuis longtemps. Et le fait que ça parte de comédienne, ça peut paraître surprenant, mais ça a fait écho à un moment où je crois que la soupape sature, quoi. On est dans une société qui est très très sexiste en France, on est dans une société qui est très violente envers les femmes. Aujourd'hui, on en est à la 51e victime par uxoricide. On est dans un pays où la femme trouve pas sa place. Donc je crois qu'avoir un abus comme ça... un énième, même si ça venait des États-Unis, ça a fait écho parce que c'était le moment en France où il fallait un prétexte, je crois, pour qu'on s'en empare.
Ça a été ricoché, hein, parce que après, donc, les femmes dans le cinéma, il y a récemment encore dans Télérama, les femmes dans le milieu de la musique, donc
oui.
On a l'impression que tous les milieux, au fur et à mesure, libèrent leur parole et se font entendre.
Et se font entendre, il y a des effets, c'est pas la même chose. Oui.
Florence Rochefort, en octobre, vous posiez la question dans une tribune à Libération à propos de MeToo. Vous disiez, s'agit-il d'une révolution ? Il est trop tôt pour le dire. Pour vous, c'est pas une révolution ? Ou il est encore trop tôt pour le dire ?
C'est-à-dire, révolution, ce serait si ça a des effets qui durent. Donc, peut-être que c'est un moment de révolution, mais on ne peut pas présager de ce qui va retomber ou au contraire se transformer, se métamorphoser. C'est un moment de surgissement. Ce qui est sûr, c'est que c'est un événement. Ça fait événement. Mais révolution, c'est peut-être trop tôt pour le dire, parce qu'on ne sait pas si ça va changer réellement les rapports entre les hommes et les femmes, et les rapports sociaux, ou le rapport à ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire voilà l'organisation du masculin, du féminin, des rapports hommes-femmes dans la société.
Lisa Zoellos, vous, pour vous, c'est une révolution, vous qui, depuis pas mal de temps, avez mis en lumière la xénophobie.
Oui, alors j'avais créé ce mot justement parce que je pense qu'il s'agit d'une phobie du féminin, et en cela, c'est assez différent du féminisme, parce que c'est une phobie qui concerne les hommes et les femmes, et du féminin en général en tant que qualité. En revanche, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que c'est une totale révolution, mais pas du féminisme ou les hommes, les femmes, etc. Ça, c'est une conséquence. En fait, ce qui est en train de se passer, on le voit aussi avec les Gilets jaunes, c'est que c'est la fin du rapport dominant-dominé. Donc, en général, c'est vrai que c'est les femmes qui étaient dominées et les hommes qui étaient dominants, mais pas dans tous les couples, pas dans tous les... Enfin, si, un peu dans tous les pays, mais c'est ce rapport-là, en fait, qui est en train de changer. Donc, pour moi, c'est simplement l'écroulement du capitalisme tel qu'il a été pensé de manière patriarcale. Et c'est ça qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Le mouvement MeToo en est une conséquence, le mouvement des Gilets jaunes en est une autre. Il y a plein l'écologie et les cris de douleur qu'on entend de la terre et de tout en est une autre. Il faut pas séparer. Il n'y a pas d'un côté le féminisme qui fait sa petite révolution et puis de l'autre côté le monde qui souffre et puis voilà. Non, c'est pas ça qui se passe.
Christophe Bourseiller.
Est-ce que c'est pas aussi un phénomène qui a été accru par Internet? C'est ce que vous dites, Chloé Delhomme. Vous dites Internet a libéré la femme là où Moulinex a échoué. Alors, en même temps, cette révolution, vous parlez de gynophobie, c'est-à-dire la haine des femmes.
Non, c'est la peur, le mépris ou la haine.
Oui, enfin, la peur, le mépris ou la haine.
Mais c'est surtout la peur, en fait.
Du féminin, on va dire.
Phobie, c'est surtout la peur.
Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une espèce de quelque chose de très binaire qui se met en place où il y aurait d'un côté le gentil féminin et le méchant masculin?
Mais c'est le binaire qui est en train de s'écrouler. Binaire s'écroule. Quand la physique n'était pas quantique, on pouvait encore penser binaire. Aujourd'hui, avec la physique quantique, penser binaire, c'est être vraiment pas à la page. Et c'est ça qui est en train de se passer. Opposer sans cesse l'homme et la femme, le féminin et le masculin, c'est terriblement lourd.
Voilà. Mais par exemple, Chloé Delhomme, vous dites « Nous sommes des femmes indépendantes, conscientes que l'ennemi est commun ». L'ennemi commun, c'est qui ?
C'est le patriarcat, c'est pas exactement la même chose que le genre masculin. C'est pas pareil. Ce qui pose souci, c'est le système sexiste tel qu'il est et pas l'homme. C'est pas de la misandrie. C'est pas la même chose.
Anne-Marie Le Porriette, vous, comment vous regardez cette lutte aujourd'hui ?
Oh, c'est pas une lutte. Disons qu'effectivement, vous le dites, les réseaux sociaux, la technologie a permis un déferlement et un lynchage médiatique comme jamais, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on voit la haine comme ça se dérouler sur les réseaux sociaux. Donc, ça n'est qu'un phénomène médiatique. Et l'affaire Weinstein en elle-même est une affaire d'une banalité sans nom, hein, d'un producteur de cinéma très réputé pour savoir faire des carrières et fabricant de stars et qui a l'habitude de donner rendez-vous dans sa chambre à l'hôtel à des candidates et qui ne demande pas mieux, qui se rappelle 10 ans après ou 15 ans après qu'il a tenté de les violer. Donc tout ça est un peu ridicule à mes yeux, mais enfin bon voilà, elles ont dit que c'était une révolution, ben, faisons leur plaisir et disons que c'est une révolution pour une banalité sans nom, quoi.
Chloé Delhomme.
Moi, je considère pas que ce soit d'une banalité sans nom et je pense qu'on est à l'orée de quelque chose de très important, d'une révolution des mœurs en profondeur. Je le pense vraiment, oui.
L'idée que, selon laquelle, parce que quand même on est en 2019, le mouvement des femmes, le MLF, a démarré en 1968-69. Ça fait des années. Enfin, personnellement, je ne suis pas tout jeune et j'ai toujours grandi aux côtés de femmes qui étaient des femmes qui se disaient libérées, qui prônaient la libération de la femme. Et donc, finalement, est-ce que il n'y a pas eu un mouvement féministe de grande ampleur qui a déjà bouleversé la société française, parce que la parité, le désir d'égalité de salaire. Enfin, il y a vraiment un mouvement. Une lame de fond. Et est-ce que cette nouvelle révolution qui est en cours, c'est pas aller peut-être, alors on sait pas où ça va en fait, aller plus loin, aller la destruction du patriarcat pour le matriarcat,
le matriarcat, si c'est pour renverser, pour faire la même chose avec des mamatrones à la place des papatrons, c'est pas très intéressant. Non, moi, ce qui m'intéresse, mais ça, c'est ma position à moi, c'est la notion de sororité.
De sororité pour laquelle
on est dans
un rapport. Notre précédente invitée, Flashtov, était exactement dans la même dimension que vous. La sororité, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, on est dans un rapport qui est horizontal et qui n'est pas vertical. On n'est pas dans un rapport de pouvoir. On est dans autre chose. On essaye autre chose.
D'ailleurs, on pourrait parler de sororisme à la place de féminisme.
Oui, c'est vrai.
Quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, il faut inventer le mot de sororisme.
Ouais.
De femmes qui s'aiment entre elles. Et ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont libéré la haine de tout. Et donc, évidemment, le mouvement féministe est fait partie de cette vague. Alors, il y a ceux qui détestent, ceux qui adorent, mais tout le monde se hait. Mais ce qui est fou, c'est à quel point il y a l'amour de la haine. Et moi, la question que je pose, c'est quand est-ce qu'on va avoir l'amour de l'amour ? Parce que s'il n'y a pas l'amour de l'amour, et c'est vraiment pas en train de prendre ce biais-là, notamment avec les réseaux sociaux, s'il n'y a pas ça, je vois pas comment les rapports hétérosexuels vont se libérer. C'est de plus en plus compliqué parce que c'est vraiment l'un et l'autre. Comment on va faire pour se parler à l'heure de l'intelligence artificielle ?
Mais peut-être que avant l'amour, il y a la révolte. C'est-à-dire que arriver à ce qu'a toujours été l'utopie d'harmonie entre les sexes, de pouvoir dépasser les... Là, pour l'instant, c'est la révolte contre de la violence. Il y a toujours eu des revendications phares qui ont rassemblé au-delà de tous les clivages. Il y a eu, comme vous l'aviez dit, dans les années MLF, l'avortement, la contraception, qui a permis que toutes sortes de femmes et d'hommes, et même des hommes qui se sont impliqués dans cette lutte, se sont retrouvés à vouloir changer les rapports entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, c'est une lutte contre une violence et vous posiez la question de pourquoi c'est cette résurgence ou pourquoi cet événement. Eh bien, parce que il y a un renouvellement des générations. Il y a un certain épuisement d'un type de discours qui n'a pas suffisamment transformé les rapports sociaux. Et puis, il y a une intolérance à l'égard de cette violence. C'est des choses qui étaient sous silence et qui, tout d'un coup, ne sont plus acceptables. Et il faut absolument des mots pour pouvoir dénoncer ces violences.
Alors, je vous propose un retour dans les années 60 avec Leslie Gore. Elle a aussi milité pour le mouvement LGBT, notamment dans la série The Life, elle chantait « You don't own me ».
Don't tell me what to do. Don't.
You Don't Own Me par Leslie Gore, c'était en 1963, un chant féministe s'il en est en fait.
Ah bon?
Il est allé dans la salle de bain.
And he comes back wearing.
Il en est sorti en peignoir. Il m'a fait, je veux juste un massage pour me détendre.
Massage, like for me to relax.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
But their time is up.
Quand est-ce que les hommes vont être adultes et considérer que les femmes ne sont pas un butin? On ramasse quand on a le pouvoir.
Me too.
C'est soit on donne les noms, on va porter plainte, voilà. Soit en fait ça ne sert à rien.
Le fameux hashtag balance ton porc.
New day is on the horizon.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Ce soir, le NRV La Suite revient sur les combats féministes avec nos invités, la cinéaste Lisa Azuelos, l'autrice et essayiste Chloé Delhomme, la juriste Anne-Marie Le Porriette et l'historienne Florence Rochefort. Aujourd'hui, le féminisme ressemble, c'est ce que raconte la revue Science Humaine, à un champ de bataille. Il y a, je cite, « celles qui dénoncent les violences sexuelles et celles qui défendent le droit d'être importunées dans l'espace public, celles qui promeuvent la parité dans les instances de direction et celles qui considèrent qu'il s'agit d'une revendication bourgeoise. » Et de tous les côtés, ce sont des féminismes. Et il y a aussi celles qui revendiquent le droit de porter le voile au nom de la liberté individuelle et celles qui considèrent que c'est une impression des femmes. À ce sujet, je voudrais qu'on écoute la position d'Elisabeth Van Inter.
Le voile ou la burqa me dérange, tout simplement parce que c'est une façon de tourner le dos à nos acquis les plus sacrés qui sont l'égalité entre les êtres humains. On a mis beaucoup de temps à approcher de cette égalité des sexes, même si elle n'est pas complètement réalisée. Et tout d'un coup, tous ces combats que nous avons menés ont été littéralement balayés. Donc oui, ça me dérange et oui, je le dis haut et fort.
Le voile au centre des crispations des discours féministes, comment vous vivez ce débat, Chloé Delhomme?
Moi, j'avoue qu'il y a, jusqu'à l'année dernière, j'étais encore un peu dans une position proche de Van Inter et puis ça a complètement changé.
Pour quelle raison?
Parce que j'ai
cette
parlé,
position est recevable
parce
aussi.
Que j'ai parlé avec des, je suis allée à la rencontre des femmes en fait, et je me suis rendu compte que, bah, en tant que position sororale, je suis dans l'obligation absolue d'être dans la tolérance et de comprendre aussi ce qu'elles souhaitent, enfin de laisser les femmes tranquilles tout simplement. Je pense que le féminisme, c'est peut-être laisser les femmes, chaque femme, faire ce que bon lui semble.
Sauf si on pense que les femmes qui portent le voile ou la burqa ne sont pas véritablement libres de leur propre corps. Ce que suppose Elisabeth Van Inter.
Oui, ce qu'elle suppose, mais après...
C'est pas d'ailleurs un débat contre pour et contre le voile, qu'on instaure ici, mais cette question-là a crispé justement le débat féministe. Lisa Azuelos, vous?
Moi, ça me dérange pas si dans les mêmes quartiers où on porte des voiles, on peut porter des mini-jupes.
Oui, voilà. Voilà.
Sauf que, souvent, c'est pas le cas. Voilà. Mais si...
Anne-Marie Le Porriette...
Oh, moi, je ne place pas du tout cette question de la burqa ou du voile sous l'angle du féminisme. Les burqas sont largement revendiquées par des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Ce sont des furies, généralement, qui les portent. Hein, des converties, le plus souvent. Donc, c'est pas du tout un argument féministe ou pas. Le féminisme rase. Et donc, je n'entends aucun de ces arguments. Non, ce qui est casse-pied, c'est qu'on a le droit, dans un pays, de dire, par exemple, vous pouvez pas rentrer à poil dans les magasins ou vous promener à poil dans la rue. De la même façon, un pays a le droit d'avoir sa culture et de dire, écoutez, non, on ne se déguise plus en citadelle moyenâgeuse dans les rues de Paris. Bon, on a le droit de dire que ça choque. Ça choque, mais pas au regard de l'inégalité des sexes ou autres. Une fois de plus, les femmes qui revendiquent le voile et qui revendiquent la burqa, elles sont pas soumises. Hein. Bon, franchement, il faut être aveugle pour ne pas les entendre. Elles revendiquent et elles sont loin d'être dominées, celles-là. Mais c'est pas une question d'égalité, c'est une question tout simplement de savoir si un pays d'accueil a le droit de décider ce qui est convenable ou pas dans l'espace public.
Donc là, vous déplacez en effet le débat voilà. Sur un autre sujet.
Ah non, bah oui, c'est tout à fait. Et en plus, alors, sur l'aspect de sécurité, parce que le problème de la burqa, c'est que vous ne pouvez identifier personne et que là, évidemment, c'est un danger pour la sécurité.
Florence Rochefort, vous, par rapport, vous qui êtes historienne justement du féminisme, vous comprenez, j'imagine, la position d'Elisabeth Van Inter qui voit le voile comme étant la négation de tout. Ce pourquoi elle a lutté pendant des années.
Oui, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que ça a toujours été une question assez cruciale dans l'histoire des féminismes que de savoir revendiquer une certaine liberté du vêtement, du costume, et que le voile dans les féminismes justement des pays musulmans a beaucoup été contesté dans les années 1920. C'était un point important de lutte féministe contre le voile et contre la polygamie et pour l'égalité des droits. En revanche, revanche, peut-être qu'aujourd'hui, dans un contexte de pays de liberté, comme la France, dans le contexte européen, le contexte des pays occidentaux, il y a toutes sortes de voiles différents. Et peut-être que c'est pas toujours opportun de définir une fois pour toutes ce qu'il signifie. Et en effet, comme le disait Chloé, il y a beaucoup de paroles diverses autour de cette question et qu'il faut pouvoir entendre, comprendre et peut-être dédramatiser ce
signe. Mais comment vous justifiez le discours des jeunes femmes d'aujourd'hui qui disent les féministes historiques, finalement, leur mouvement était inachevé, c'était un mouvement, on en parle encore aujourd'hui, et au fond, elles sont pas allées bien loin, la société n'a pas bougé, elles n'ont pas osé faire bouger les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de féministes qui bouscule là où les féministes historiques n'osaient pas bousculer, notamment au niveau de la vie quotidienne, je ne sais pas.
Je crois que les féministes historiques, comme vous dites, en tout cas, elles sont historiques depuis belle lurette, mais en tout cas, celles de la génération des années 1960-1970, elles ont profondément changé les choses.
Oui.
Et peut-être là, il y a un maillon qui manque, c'est l'enseignement de cette histoire. C'est-à-dire que pour comprendre à quel point elles ont été utiles au changement, il faut pouvoir réfléchir à décrire une société, décrire ce qui a changé. En revanche, on peut tout à fait comprendre qu'une génération après, pour qui ces acquis était quelque chose de normal, il y a une certaine impatience. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, une révolte par rapport... Puisqu'on leur a dit que l'égalité était acquise, elles ont encore moins d'armes, peut-être, pour penser les contradictions auxquelles elles sont confrontées. Il y avait eu des analyses qui expliquaient que les jeunes femmes devenaient féministes vers 30 ans, quand elles avaient leur premier enfant, et que dans le milieu professionnel, rien n'avançait, que tout d'un coup, l'idée que tout était acquis, ça ne servait plus à rien pour comprendre les problèmes auxquels elles étaient confrontées.
Vous, votre féminisme date de quand alors, les Azuelos?
Moi, il date depuis que je suis toute petite, parce que j'ai été élevée mon papa est juif marocain et j'ai été élevée dans des tables où les femmes n'avaient pas le droit de parler et étaient en cuisine pendant 3-4 jours et personne ne les remerciait pour le temps qu'elles avaient passé en cuisine pour régaler tout le monde. Donc j'ai senti une vraie différence. Mais pour revenir un peu à ce que vous dites, le problème crucial aujourd'hui, et moi j'ai un petit peu abandonné, on va dire, la cause féministe, pas en tant que cause, mais je me tourne surtout vers les générations qui arrivent. Parce qu'en fait, je pense que ma génération, elle est cramée. Entre les hommes et les femmes, il y a quand même un divorce sur deux. Donc même, vous voyez, dans les mariages, ça marche pas trop.
C'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
Les gens sont seuls, les gens sont sur appli. Ça baisse beaucoup moins. Enfin, c'est vraiment pas rigolo, quoi. Ce qui se passe sur le marché de la séduction aujourd'hui, c'est moche. Mais bon, j'estime que nous, on a cramé. Et puis, c'est pas grave. Mais c'est ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui qui me préoccupe. J'ai fait un documentaire qui s'appelle Yo Love. Je suis allée voir dans les lycées ce qui se passe. Et en fait, c'est un problème d'éducation profond et en fait le véritable ennemi, on n'en parle pas assez, mais c'est la consommation face au désir. Et en fait on se retrouve aujourd'hui face à des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui ont un désir plus qu'en berne. Et donc forcément, le rapport homme-femme est en berne aussi. Et ça c'est très 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 préoccupant. Parce que qui gagne du terrain, c'est la consommation, c'est le clic sur l'appli, et puis on bouge plus chez soi, on regarde Netflix ou on achète des trucs, et puis le désir est comblé. Et donc ça ne se comble plus entre un garçon et une fille. Et c'est à l'éducation nationale aujourd'hui de vraiment faire en sorte que les jeunes soient éduqués, soit aux différents féminismes, soit à l'histoire, soit surtout à l'estime de soi. Parce que quand on a une bonne estime de soi, qu'on soit un garçon ou une fille, il n'y a plus de problème. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se passe dans les écoles.
Florence Rochefort.
C'est aussi un problème de passer au collectif. Et ça a toujours été aussi une dynamique. C'est-à-dire que pour passer de révolte individuelle ou d'insatisfaction et de souffrance individuelle à un mouvement collectif, on passe dans du politique. Alors politique, c'est pas un gros mot, hein. Il faut le voir au sens très large d'une action collective qui agit au niveau civique, qui agit pour transformer une société. Et c'est ce passage qui n'est peut-être pas facile dans une société très individualiste où chacun pense à son propre épanouissement comme s'il était indépendant de celui des autres. Donc c'est ce passage au collectif et c'est peut-être ça l'événement MeToo. C'est-à-dire que tout d'un coup il y a une espèce de chaîne qui passe à travers les frontières et là on a vraiment un phénomène mondialisé.
Est-ce que c'est un collectif ou est-ce que c'est pas, on vit pas un moment de communautarisme où les gens se replient sur des identités, l'identité féminine, l'identité chrétienne, l'identité l'identité musulmane, l'identité gilet jaune, l'identité tout ce que vous voulez, mais est-ce que ce n'est pas dans un moment où il y a cette forme de repli identitaire? Mm-hmm. Est-ce qu'au fond, de voir l'histoire sous le prisme d'une sorte de dichotomie entre la féminité et la masculinité, est-ce que c'est pas finalement se replier sur la communauté des femmes?
Anne-Marie
Le
Poirier.
Oui, mais bien entendu que c'est ça. Si vous voulez, le mouvement féministe tel qu'il est vécu aujourd'hui, très conflictuel, très agressif, il fait partie, il s'intègre dans le multiculturalisme à l'anglo-saxonne et ce qu'on voit dans les universités américaines depuis déjà très 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 longtemps, c'est-à-dire
une
lutte entre dominants et dominés, un discours qui est complètement hostile, qui est totalement agressif, qui est un discours de guerre, hein, de guerre des sexes, de guerre des races, etc., etc., et qui, évidemment, je comprends ce que vous dites, je me demande si on n'est pas en train de cramer les rapports hommes-femmes avec un discours comme ça. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai quand j'écoute l'argumentaire féministe, les discours féministes, les militances féministes. Il m'effraie tellement il est agressif, tellement il est négatif, tellement il est haineux. Et je me dis, je me rappelle très bien qu'un jour il y avait une émission de télévision sur Florence Artaud et le journaliste interrogeait le frère de Florence Artaud et lui disait, mais les féministes ont essayé de racoler votre sœur et elles n'y sont pas arrivées. Elle n'a pas voulu se faire récupérer par les féministes. Et le type répond, Florence aimait trop les hommes pour être féministe. Et j'avoue que moi, ce discours anti-mec, je ne peux plus le supporter. Il me sort par les yeux. J'aime trop les hommes pour supporter ce discours agressif qui les accable de tous les maux, qui en fait des porcs, des obsédés sexuels, des agresseurs sexuels, etc. Et je peux vous dire qu'étant juriste, quand je vois la traduction de tout cela dans le droit pénal, dans le droit répressif, au mépris de tous les immenses principes du droit pénal, quand vous voyez la dernière loi Schiappa de cet été qui est une honte au regard du droit constitutionnel, du droit du respect des libertés fondamentales, effectivement, et quand on voit comment les procédures juridictionnelles, le principe du contradictoire, les droits de la défense, tout est refusé aux hommes dans cette société, je commence à m'affoler par de cette évolution. Donc là, véritablement, il y a une guerre, et cette guerre se traduit dans le droit, et de ce point de vue-là, effectivement, j'ai peur qu'on soit en train de cramer beaucoup de choses.
Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the steez though. And now I'm here, can't entertain no bummy boy. Need my boy fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage steady blowing. I'm a woman who can teach you a little something about class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Tell myself I break my fellas off but never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes, they wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly.
I can't sleep at night.
Everything in this divine turn. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah.
No validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new when I know the cause. Wait, call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type. Till now, I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight. Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there. I make it clear, don't be in and out about what you hear. They say I always get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, go.
I can't sleep at night, I don't wanna fight. My best friend is I'm so selfish. Guess I'm in denial.
Le son de Little Sims, la canaille du hip-hop anglais en mode selfish dans le NRV, la programmation Selfie de Jean-Baptiste Audibert.
France Inter.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Le nouveau rendez-vous.
C'est le résultat d'une histoire.
Ça n'est pas parce qu'on a tel conformité du corps et des organes génitaux que on va acquérir une identité qui est toujours culturelle.
Je n'avais pas voulu ni me marier, ni avoir d'enfant. Je n'avais donc pas amené une vie intérieure, ce qui est la chose la plus écrasante dans la condition féminine.
Laurent Goumard.
Pour les femmes, peut-être plus que pour les hommes, rien n'est jamais acquis.
Simone Veil, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter, ce sont elles les historiques du féminisme ici en France. Enfin, pas qu'elles, hein, il y en a eu bien d'autres aussi, même avant. Ce soir, dans le NRV, la suite, on compte les révolutions féministes. Quatrième vague, vous nous dites, Chloé Delhomme. Quatrième vague, c'est-à-dire une vague presque, on va dire, sans indifférence, c'est-à-dire, par exemple, le féminisme anticapitalisme, où, quand on parle des luttes, je vous cite, antiraciste, anti-homophobe, antisexiste, c'est toujours le mâle blanc, alpha. Qui est au centre des préoccupations.
C'est toujours le mâle blanc alpha qui est au centre des préoccupations, mais c'est
normal. Et donc,
normal.
Il est le facteur de toutes les luttes. C'est-à-dire, donc, le féminisme rejoint le décolonialisme, etc.
Oui,
etc.
oui, c'est intersectionnel à ce niveau-là. Oui,
et vous
oui.
êtes pour cette dimension-là?
Oui, je suis pour cette dimension-là aussi, oui. Je suis pour l'atomisation définitive du mâle hétéro-blanc qui domine. Il faut
vous
bien
dites,
dire.
C'est l'histoire d'une espèce qui se regarde dans le miroir, on parlait d'espèce humaine, j'imagine, sans admettre que son visage est celui de Donald Trump.
Oui, ben c'était l'espèce des mâles alpha en l'occurrence, plus que l'espèce humaine, oui.
Le fameux mâle.
Le fameux mâle alpha, fameux mâle. Dominant.
Et quand une femme, par exemple, commet un crime, vous dites, c'est la part masculine.
Ah non, je ne dis pas ça.
Ah ça, je l'ai lu, ça aussi.
Je ne dis pas que
là,
c'est la part masculine.
Vous accusez une part masculine,
non, parce
donc l'ennemi, c'est le masculin.
L'ennemi, c'est le dominant. C'est pas une question de féminin masculin sur ce coup-là. Pour
mais le dominant n'est pas forcément toujours le mâle alpha blanc. Bien entendu, ça dépend des civilisations, ça dépend d'ailleurs
mais
les pays.
Bien sûr, mais là moi je parle en France, donc je parle de l'endroit où je me trouve, donc ça sera assez illogique que je prenne quelqu'un d'autre que le mâle alpha.
Il n'y a pas de dominante?
Alors les dominantes, elles sont dans une répétition du...
Elles imitent l'homme.
Bah oui.
Sinon elles ne domineraient pas. Donc dans la société féminine, ce serait une sorte de communisme sans chef.
Vous me cherchez vachement
bah oui,
ce soir, je trouve.
Il essaye de comprendre,
j'essaie
vous savez,
de vous faire
il est complètement
parler.
Perturbé.
Non, je pense que les femmes, quand les femmes sont en situation de pouvoir, il y a tendance à être dans une répétition du modèle, oui.
Et pourtant, ça a été vécu comme une libération, comme une émancipation, que les femmes puissent accéder à des rôles de pouvoir, justement.
Oui, oui, non, mais après, il y en a qui sont à des rôles de pouvoir et qui gèrent le pouvoir en s'en sortant très bien et en n'étant pas dans le duplicata de quelque chose de violent ou d'assujettissant, heureusement. Mais je pense qu'il faut inventer les nouveaux modèles.
Florence Rochefort, comment vous regardez-vous ce féminisme anticapitalisme ?
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye d'articuler différents types de domination, différents types de lutte. C'est-à-dire que la domination masculine n'est plus forcément pensée comme la seule et unique, et donc l'objectif n'est plus seulement cette domination masculine. Et donc, elle serait articulée à d'autres types de domination. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas non plus complètement nouveau dans l'histoire des féminismes que d'essayer d'articuler des luttes.
Ça, surtout aux États-Unis, ça vient des États-Unis.
Mais, ouais. Oui, mais même, on a toujours pensé au aussi, par exemple, les Saint-Simoniennes autour du prolétariat, les premières féministes début 19e, c'était autour de l'anti-esclavagisme. Donc, il y a toujours eu des figures miroirs. Aujourd'hui, peut-être, c'est les mouvements LGBT qui...
Le slogan du MLF, voilà, c'était la femme, le prolétaire du prolétaire. Donc, c'était l'idée d'une
révolution. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait aussi des hommes qui étaient mobilisés pour cette cause et que bien c'est sûr. Pas... même si on construit une catégorie femme pour faire comprendre qu'elle est opprimée, mais à cette construction, beaucoup d'hommes se sont aussi investis et encore aujourd'hui. Et justement, le mouvement MeToo, bien qu'il n'ait pas encore été étudié suffisamment, mais il a touché beaucoup d'hommes et beaucoup de jeunes hommes qui ont dénoncé la violence de leur congénère. Et ça, c'est peut-être nouveau aussi.
Anne-Marie Le Porriette, je sais que vous êtes très dure envers les derniers mouvements féministes, on l'a bien compris tout à l'heure en vous écoutant, mais pour vous, quelles sont les véritables figures féministes qui ont compté pour vous-même d'ailleurs?
Aucune, je ne suis pas féministe, et d'ailleurs je trouve que Simone Veil, rangée parmi les féministes, c'est une erreur d'appréciation. Hein. Bon, elle était justement l'incarnation de la femme de pouvoir, et qui était au pouvoir, mais sans la moindre revendication, sans étalement du tout de sa féminité. Donc, de ce point de vue-là, elle fait l'objet d'une récupération. Alors là, évidemment, clair, mais c'est une imposture, hein, de la mettre dans ce...
Vous pensez que pour lutter contre, pour l'IVG,
d'autant plus
pour
l'IVG à cette époque-là? En plus, elle est trahie dans ce qu'elle était profondément, en la matière, notamment sur l'IVG, elle a été largement trahie depuis. Non, je n'ai pas du tout de figure, aucune. Je m'ennuie, je trouve le discours féministe d'un chien. Mais vraiment, c'est épouvantable. Il y a pas d'autre mot. On s'ennuie à les écouter. Elles geignent tout le temps. Ce discours que je viens d'entendre, mais qu'est-ce que vous voulez? À part rire, je vois pas très bien ce qu'on peut en faire. Alors l'intersectionnel, c'est le mieux. C'est le pompon du pompon. Là, on entend un gloubi-boulga aberrant d'affirmations qui sortent de partout. Mais enfin, combien sont-elles? Parce que il y a quand même un gros problème chez nous dans tous les domaines, c'est que vous avez des associations qui gueulent, qui crient, qui s'expriment, etc., et qui parlent au nom des femmes. Et alors elles disent les femmes, mais c'est même pas les femmes françaises, c'est les femmes du monde entier. Elles parlent au nom de toutes les femmes du monde, et d'où sortent-elles leur représentativité qui leur a donné mandat pour parler en notre nom? Non. Donc il y a une espèce de supercherie, une imposture qui consiste pour ces personnes à prétendre parler au nom de toutes les femmes sans qu'on se soucie du tout, et elles dictent la loi. Elles sont considérées comme représentatives. D'un syndicat, on exige qu'ils soient représentatifs pour pouvoir participer à des négociations. D'une association féministe ou LGBT, ou même antiraciste ou autre, jamais on exige et on ne vérifie une quelconque représentativité. Hein. Bon, donc ces gens font la loi, disent la loi, disent le bien, disent le mal, etc., au nom de tas de gens qui ne les ont jamais mandatés. Donc là, il y a quand même un problème d'écoute et de participation au pouvoir, notamment à la rédaction des lois, d'ailleurs, par un certain nombre d'associations.
Ça, c'est la juriste qui parle.
Oui, absolument. Mais parce que moi, je le vois, j'ai eu Madame Schiappa en face de moi qui m'a dit un jour qu'elle ne savait pas ce dont elle parlait et que c'était les associations qui allaient les rédiger. Dis donc, c'est un grave problème démocratique, ça, quand même. Bon,
pas forcément. Pas forcément, justement. C'est quelquefois même une grande preuve de démocratie.
Alors, je me tourne maintenant vers peut-être les féministes qui sont là. Donc, Florence Rochefort, par exemple. Comment vous interprétez le discours de Madame? Comment est-ce que vous le Anne-Marie Le Porriette? Comment est-ce que pour elle, finalement, elle, c'est qu'une autre parole de femme là qui se fait entendre,
qui ne se retrouve absolument pas dans la parole féministe telle qu'elle a été engagée depuis des années?
Ce que j'ai envie de dire, c'est que la démocratie, c'est un enjeu fondamental. Qu'aujourd'hui, l'antiféminisme et le masculinisme, c'est le lit et le levier de tous les régimes antidémocratiques qui sont extrêmement puissants. Voilà, en Europe, en Hongrie, au Brésil, aux États-Unis, avec en tout cas cet électorat de Trump, et que par conséquent, c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut entendre la revendication féministe comme porteuse d'une démocratie vivante et d'avenir.
Même s'il y a beaucoup de femmes qui ont voté pour Trump. Et oui, beaucoup de femmes qui se sont mobilisées contre lui aussi. Ouais.
Mais c'est vous qui ramenez toujours le débat sur les femmes contre les hommes contre les femmes. Il y a quelque chose dans le féminisme qui aspire à dépasser justement parce qu'il y a toujours eu des hommes féministes, parce qu'il y a toujours eu des femmes antiféministes, et que c'est une utopie et un espoir et une volonté de rapport égalitaire. qui peut être partagé par des hommes et par des femmes.
Eh bien, ça sera le mot de la fin, à moins que vous en ayez trouvé un, Christophe
Bourseiller. Effectivement, Florence Rochefort a dit une phrase intéressante, l'antiféminisme et le masculinisme sont le levier de tous les régimes antidémocratiques, donc ça mérite réflexion.
Merci à toutes. Chloé Delhomme, je rappelle que Mes bien chères sœurs, c'est aux éditions du Seuil. Anne-Marie Le Porriette, rendez-vous dans le magazine Causeur. Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, est disponible aux presses universitaires de France. Elisa Azuelos qui nous a quittés parce qu'elle prenait un avion.
Pour
son
Lisbonne.
Film Bébé est toujours en salle et je renvoie vers le site Ensemble contre la gynophobie, c'est nosgynophobie.org.
Je veux des odeurs d'artificiers, même si personne ne se laisse aimer. Je désire ce qui tremble, qu'aucune journée se ressemble. Je dis ça pour que tu comprennes. J'attendrai pas que la tendresse vienne. Je l'ai mouché jusqu'au sang, ma timidité d'adolescent. Oh, tu te moquais tellement. Non, non, non.
De crise sur France Inter, on la comprend car oui, le NRV, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Le NRV, je le rappelle, c'est chaque jour dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et donc en podcast ou alors 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. On reste en lien, on attend vos commentaires sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. On est présent absolument partout avec le hashtag NRVFI. La réalisation était signée Marion Lelay et Juliette Medevielle. Préparation Virginie Rouzic, Corinne Valente, Margot Page, Benoît Lagan, Laure Grand-Besançon et Gaëtan Lévy. Oui, tous beau monde. Lundi, on se retrouve et on sera là avec lui.
Il est sorti de la prison de la santé en plein Paris, ce qui bien sûr est exceptionnel.
Une émission haut les mains avec François Besse, le cavaleur, Bertrand Tavernier, le shérif du cinéma français. Et dans le NRV la suite, on remet le couvert musique. Les femmes s'en mêlent, la valse des machos. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et le bon week-end. Alors à lundi.